l'écoute de RFI, 18h ici à Paris, 17h en temps universel.
RFI Soir, Romain Ouzoui.
Lundi 30 décembre, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour la session soirée sur RFI. C'est parti pour 3 heures d'infos. Avec dans 10 minutes le décryptage sur le narco-banditisme. Est-ce que la France est en voie de mexicanisation alors que le trafic de drogue dans l'Hexagone génère plus de 3 milliards d'euros par an? Juste après, ce sera le débat du jour qui lancera une semaine consacrée aux grands enjeux de 2025. Ce soir, le Proche-Orient, évidemment, qui concentre tous les regards. Gros plan sur Israël. Israël engagé sur de multiples fronts dans la région. Notre question, est-ce que la marche en avant d'Israël sera entravée? Les menaces qui pèse au-dessus de l'État hébreu l'empêcheront-ils d'instaurer un nouvel ordre régional, selon les mots de son Premier ministre Benjamin Netanyahou? Rendez-vous donc dans 30 minutes. Dans une heure, le grand journal du soir avec Margot Ratézy qui est à la une le dossier consacré à Mayotte où se trouve le Premier ministre français François Bayrou. 18h30 TU Afrique Soir, la première édition. 19h10 TU, votre session reportage Accent d'Europe ce soir en Turquie. Les autorités durcissent leur politique migratoire. Enfin, le grand reportage aux Maldives consacré à une méthode controversée pour lutter contre la montée des mers. Il s'agit d'utiliser massivement du sable.
RFI.
Mais pour l'heure, à 17h, bientôt 2 minutes en temps universel, c'est le journal de Guillaume Ouattara. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
Et donc Mayotte à la une ce soir.
Avec le déplacement de François Bayrou et ses annonces, il s'est engagé à rétablir l'électricité dans tous les foyers d'ici fin janvier et à empêcher la reconstruction de bidonvilles. Le Premier ministre qui a présenté un plan d'aide ambitieux pour reconstruire durablement l'archipel le plus pauvre de France, tout en renforçant la sécurité des établissements scolaires menacés par des pillages et des incendies. Depuis Mamoudzou, il a annoncé le lancement d'un plan vigilance associant armée et gendarmerie pour protéger les écoles, collèges et lycées. On ne peut pas laisser les établissements scolaires être chaque jour pillés ou brûlés comme cela a été le cas avec une école transformée en centre d'hébergement d'urgence, a-t-il dit, avant de réaffirmer la détermination de l'État et de ses collectivités à interdire le retour des bidonvilles. En outre, François Bayrou promet deux lois, dont une présentée dès vendredi. Écoutez.
Une loi d'urgence sera présentée en Conseil des ministres le 3 janvier, avec une présentation au Parlement sous 15 jours. Un établissement public de refondation de Mayotte, sur le modèle de l'établissement public de Notre-Dame, sera décidé le 3 janvier. Une loi programme de refondation de Mayotte, préparée et conçue avec les élus de Mayotte, sera mise au point dans les 3 mois. Et enfin, un recensement général et précis de la population sera organisé à Mayotte sous l'autorité des maires avec une mission dédiée par l'État pour chacune des communes. Ce recensement général et précis est une opération vérité qui permettra de sortir des ambiguïtés et des incohérences que beaucoup d'élus ont signalées sur l'appréciation numérique de la population.
François Bayrou au micro RFI de Lola Fourmi. Déplacement également de deux ministres français, ceux des armées, Sébastien Lecornu, et des affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Ils sont ce lundi à Beyrouth pour une visite de 3 jours pour rencontrer des responsables libanais et passer le nouvel an avec les casques bleus français de la FINUL déployés dans le sud du pays. Côté libanais, cette visite est l'occasion de solliciter le soutien de la France afin de faire cesser les violations israéliennes de la trêve. Les explications sur place de Paul Khalife.
Sébastien Lecornu et Jean-Noël Barrot doivent s'entretenir avec le chef de l'armée libanaise, le général Joseph Rand, et le représentant du Liban au sein du comité de surveillance de l'application du cessez-le-feu avec Israël. Ces rencontres sont importantes car l'armée libanaise est appelée à jouer un rôle de premier plan dans l'accord de cessez-le-feu en se déployant au sud du fleuve Litani jusqu'à la frontière avec Israël. Ce déploiement n'est pas achevé plus d'un mois après la fin des combats. Il est entravé par les violations quotidiennes de la trêve par l'armée israélienne qui ne s'est pas encore totalement retirée du sud du Liban. Ces violations qui ont fait une quarantaine de morts et une cinquantaine de blessés depuis l'annonce du cessez-le-feu prennent plusieurs formes. Les Israéliens interdisent par exemple aux habitants des villages frontaliers de rentrer chez eux et procèdent à des incursions dans des villages qu'ils n'avaient encore jamais atteints pendant la guerre. Lors de ces opérations, l'armée israélienne affirme détruire des infrastructures militaires du Hezbollah. Mais les soldats dynamitent aussi des maisons et détruisent des routes. Les dirigeants politiques libanais demanderont aux ministres français en visite à Beyrouth de faire pression au sein du comité de surveillance du cessez-le-feu pour accélérer le retrait israélien et permettre le déploiement de l'armée libanaise. Paul Khalife, Beyrouth, RFI.
En Algérie, le président Abdelmadjid Tebboune s'est adressé hier à son peuple et s'il s'en est vivement pris à la France. Il est revenu sur les questions mémorielles dans un discours à la Nation prononcé devant les deux chambres du Parlement. Selon des extraits de son discours publié sur le site officiel de la présidence, le dirigeant algérien appelle Paris à reconnaître ses crimes en Algérie. Alors que les relations entre Paris et Alger sont au plus bas, il exige de la France certains gestes relatifs à la période coloniale ou d'Ibrahim.
Les Français doivent admettre qu'ils ont tué et massacré les Algériens, a souligné le président Tebboune en revenant sur la période coloniale et la guerre d'indépendance algérienne. Le chef de l'État a aussi appelé la France à nettoyer les sites des essais nucléaires contaminés dans le sud du pays. « Vous êtes devenu une puissance nucléaire », a-t-il rappelé, « et vous nous avez laissé les maladies ». À ceux qui, aujourd'hui, en France, vantent les bienfaits de la colonisation, le dirigeant algérien répond que celle-ci a laissé l'Algérie en ruine. 90% d'Algériens étaient analphabètes à l'indépendance, a-t-il ajouté. Évoquant la question sahraoui, il a affirmé que l'idée d'autonomie est une idée française et non marocaine, soulignant que les options de règlement qu'il propose pour la question du Sahara occidental sont des choix entre le mal et le pire, alors qu'il s'agit d'une question de décolonisation et d'autodétermination. Pour la première fois, le président Tebboune est revenu sur l'arrestation à la mi-novembre à Alger de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. Il l'a qualifié d'imposteur au père inconnu. Il dit que son salle est envoyé par la France pour affirmer que la moitié de l'Algérie appartient à un autre État.
Ouda Ibrahim pour RFI. Les autorités sud-coréennes ont identifié 146 des 179 victimes du crash de l'avion de Jeju Air survenu dimanche à l'aéroport de Muan. Deux passagers seulement ont survécu après que l'appareil a percuté un mur en tentant un atterrissage d'urgence, probablement à la suite d'une collision avec des oiseaux. Le gouvernement a décrété un deuil national de 7 jours. RFI 20h07 à Moscou, 17h07 en temps universel. En reprochant hier à la Russie d'avoir voulu étouffer les raisons qui ont provoqué le crash d'un avion d'Azerbaïdjan Airlines mercredi au Kazakhstan, Ilham Aliyev a fait bouger Moscou. La justice russe a fait savoir qu'elle recherchait les responsables de cette catastrophe pour les traduire en justice. À Moscou, Jean-Didier Revoin.
Moscou a assuré Bakou que des mesures intensives étaient prises pour identifier les responsables de la catastrophe dont un avion d'Azerbaïdjan Airlines a été victime mercredi alors qu'il tentait d'atterrir à Grozny. Alexandre Bastrykin, patron du comité d'enquête russe, a de la même façon assuré à son homologue azerbaïdjanais Kamran Aliyev que ses responsables seraient traduits en justice. Dans le même temps, il lui a annoncé que les enquêteurs les plus expérimentés avaient été mis sur ce dossier afin d'établir toutes les causes et les circonstances de cette tragédie. L'entretien téléphonique des deux hommes a eu lieu au lendemain d'une prise de parole très ferme du président azerbaïdjanais. Ilham Aliyev avait en effet accusé dimanche Moscou d'avoir voulu camoufler les circonstances réelles de cet accident et exigé des autorités russes qu'elles reconnaissent leur culpabilité, qu'elles indemnisent les victimes et que les responsables de cette catastrophe soient punis. Vladimir Poutine s'était excusé samedi auprès d'Ilham Aliyev non pas d'avoir abattu cet avion civil mais parce que cet incident tragique s'était déroulé dans l'espace aérien russe au moment où une attaque de drones ukrainiens avait lieu dans la région de Grozny. Jean-Didier Revoin, Moscou, RFI.
Un mot de sport avec le Vendée Globe et cet abandon du dernier vainqueur de la course, Yannick Bestaven, annonce son retrait alors qu'il venait de passer le Cap Horn en 11e position. Il va devoir mettre pied à terre pour réparer plusieurs avaries, notamment sur son système de barre. Il se dirige vers Ushuaïa où il sera rejoint par son équipe technique, une escale qui le met hors course puisque le Vendée Globe est une course en solitaire. Et sans escale, malgré la déception qu'il ressent, Yannick Bestaven est heureux d'avoir franchi le Cap Horn. Écoutez.
Voilà, et là, Cap Horn.
D'arriver au Cap Horn, même si je dois m'arrêter maintenant à Ushuaïa pour réparer, et ben ça a été une sacrée épreuve et j'aurais fait les trois caps. Je dois abandonner le Vendée Globe maintenant pour voir la suite, comment ça se passe, si ce bateau est réparable pour continuer mon chemin. Même si je suis hors course, j'aimerais rallier les Sables d'Olonne en solitaire.
Voilà pour ces propos RFI. Il est quasiment 17h10 en temps universel. Tout de suite, c'est décryptage. Le retour de l'information, c'est très vite sur la Radio du Monde.